Chers amis, bonjour.
Je voudrais faire deux remarques avant d'ouvrir la Bible avec vous. Le texte que je vous propose n'est pas forcément le texte sur lequel ensuite je repose toute mon argumentation, pour la bonne raison que ce que je vous apporte est de l'ordre de la théologie systématique et déborde évidemment le cadre d'un seul texte. D'autre part, je voudrais attirer votre attention sur le fait que aborder la vie par l'esprit en 3 fois 40 ou 45 minutes, c'est limité. Et il y a deux sujets que je n'aborde pas, ou quasiment pas, qui sont pourtant importants. C'est la question du baptême et de la plénitude. Mais Jacques Nussbaumer le fait dans un atelier qui est répété, sauf erreur de ma part. Donc n'hésitez pas, si vous voulez réfléchir à ces questions, aller dans cet atelier. D'autre part, je dirai peu de choses sur les dons du Saint-Esprit, qui ont pourtant été l'objet de grandes controverses, parce que je fais d'autres choix en ce qui concerne la vie par l'Esprit. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du faire à l'être, ce que l'Esprit bouleverse dans notre existence et dans nos églises. Et j'ai en ligne de mire la question de la liberté chrétienne. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5. Galates, chapitre 5, les versets 13 à 25. Galates 5, à partir du verset 13. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ses désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Jusque-là, notre lecture. Après l'œuvre initiale et instantanée de la régénération abordée hier, l'œuvre continuée de la sanctification. Après la nouvelle naissance, la marche avec Christ. Ainsi va la vie par ou dans l'esprit qui caractérise notre existence de racheté. Aux Galates et à nous par le moyen de l'Écriture, l'apôtre Paul éprouve le besoin de rappeler qu'il ne saurait y avoir de marche avec Christ sans action de l'Esprit-Saint. Est-ce à dire que nous pourrions l'oublier ? Sans aucun doute. Et ce, pour une raison simple. La vie de disciple, mes amis, est une lutte contre notre vieille nature, la chair, qui est ici traduite dans la Bible du Semeur, l'homme livré à lui-même. Cette chair qui veut sans cesse nous faire produire ses œuvres pécheresses. Et il ne nous est pas donné d'autre moyen pour résister aux désirs de la chair que de marcher par l'esprit, de laisser l'esprit produire son fruit en nous. Pour le dire autrement, toute vie avec Christ est une vie dans l'esprit et c'est une vie exigeante. Je vous propose, en trois temps et avec en ligne de mire la question de la liberté chrétienne, de développer cette question. Du faire à l'être sera ma première partie quand l'esprit produit en nous son fruit. De l'indépendance illusoire à la vraie liberté quand l'esprit renverse nos fausses conceptions. Des efforts vains au changement véritable quand l'esprit bouleverse notre vie et celle de nos églises. Avant d'en arriver à ce que je viens de vous annoncer, il me faut donner quelques précisions sur la sanctification. Et tout d'abord, qu'elle n'a rien de facultatif dans la vie du chrétien. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le rappelle de façon solennelle. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Citant le théologien Strong, Henri Blocher affirme « La sanctification ultérieure, progressive, se distingue de la régénération comme la croissance de la naissance. » Nous pouvons parler, et l'Écriture le fait, parfois de la régénération comme d'une sanctification initiale et principielle. Il faut ajouter qu'il s'agit, la sanctification, d'un processus de transformation réelle, d'abord morale, qui se poursuit jusqu'à ce que nous rencontrons le Seigneur, soit que nous allions à lui lors de notre mort, soit qu'il vienne à nous lors de son retour, si nous sommes encore vivants à ce moment-là. Écoutez ce que dit Paul aux Thessaloniciens. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et un peu plus loin, ça c'est 1 Thessaloniciens 4, tout à la fin, dans cette formule que nous utilisons parfois dans la bénédiction, que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint, qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus. Et il y a encore du boulot. Bien que les mots « sainteté » et « sanctifié » ne soient pas utilisés dans le texte que j'ai lu, dans Galates, c'est néanmoins de sanctification dont il est question, par la fructification et la marche par l'esprit. C'est donc sous cet angle que je vais aborder cette œuvre de l'esprit. Du faire à l'être, quand l'esprit produit en nous son fruit. La première impression que l'on retire de la lecture de Galates 5, mes amis, c'est que la sanctification est de l'ordre du combat. Il y est question du risque de se blesser mutuellement, de s'entre-déchirer et de se détruire mutuellement, au verset 1. Et puis vous avez au verset 26, donc ça entoure la péricope, aussi cette idée-là. Si nous laissons faire la chair, ce sera le chaos. Il y est aussi question d'opposition irréductible entre l'esprit et la chair, ou l'homme livré à lui-même. Il y est question de désirs diamétralement opposés. Il y est même question d'incapacité radicale à faire le bien que nous voudrions. Au verset 17, c'est pourquoi, hein, ils sont opposés, l'esprit et la chair, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître, selon une traduction autre que la Bible du Semeur. Quel est l'enjeu de ce combat ? À quoi l'esprit s'oppose-t-il donc dans nos vies ? À notre vieille nature qui produit des œuvres qui mettent en évidence la corruption de notre nature humaine par le péché. Qui ne se reconnaîtrait dans la description des œuvres de la chair par au moins un ou deux des éléments mentionnés ? Pour avoir été pasteur de deux églises locales, puis responsable d'une union d'églises, je sais à quel point les rivalités, les divisions, les partis pris peuvent faire des ravages dans nos communautés, quand ce n'est pas, mes amis, l'inconduite des responsables. Arrêtons de nous leurrer ou de nous raconter des histoires. L'église n'est pas le paradis sur terre, et les chrétiens ne sont pas des saints, surtout pas quand ils se prétendent meilleurs que les autres. Les œuvres de la chair continuent à se manifester en nous et au milieu de nous, et cela ne devrait pas nous surprendre. Ce passage témoigne d'une chose que nous tendons à oublier. Nous sommes engagés dans un combat à mort. Non dans une promenade de santé ou dans un aimable jeu de rôle. Mes amis, quand le Saint-Esprit agit, il transforme radicalement, il purifie, il émonde, il brûle, ce qui n'est pas conforme à la pensée du Seigneur, et c'est rarement indolore. Paul le dit de façon nette à la fin du passage, « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. » C'est bien de mort et de croix dont il est question. Allons un pas plus loin et notons qu'aux œuvres de la chair, Paul n'oppose pas les œuvres de l'esprit, mais bien le fruit de l'esprit. Et cela nous permet de dire plusieurs choses. Premièrement, il est question, vous le savez, du fruit au singulier, non pas des fruits. Comme pour insister sur le caractère cohérent et harmonieux de ce que produit l'esprit, par contraste avec le caractère chaotique et dissonant des œuvres de la chair. Deuxième chose, le fruit est d'abord agapé, amour. L'amour dont Dieu a donné le modèle en Jésus-Christ, amour d'élection et de valorisation, de service et de gratuité. Henri Blocher utilise ces termes à partir de ce que dit un philologue catholique, Ceslas Spic, dont je vous lit la définition qu'il donne de l'agapé, c'est l'amour le plus rationnel qui soit, en tant qu'il implique connaissance et jugement de valeur, et de là sa nuance fréquente de préférence. Le verbe agapan signifie le plus souvent apprécier, faire grand cas, tenir en haute estime. C'est un amour de profond respect qui s'allie souvent à l'admiration et qui peut aller jusqu'à l'adoration. Il se manifeste par des preuves et s'accompagne de contentement. Il lie facilement des personnes de conditions différentes, générosité désintéressée et gratitude en retour. Troisième remarque sur le fruit de l'esprit. Paul, en 1 Corinthiens 12, 31, à la toute fin de ce chapitre sur les dons du Saint-Esprit, l'exalte au-dessus de tous les dons. Et je vais maintenant vous montrer une voie par excellence. C'est l'amour. Il l'exalte au-dessus de tous les dons, même les plus spectaculaires et les plus utiles à l'édification de la communauté chrétienne. Cela me donne l'occasion d'esquisser ici une façon d'évoquer le lien entre le fruit et les dons. Il me semble que par le fruit, le Saint-Esprit forme en nous le caractère de Jésus, et par les dons, il nous équipe pour le service. Par le fruit, il forme en nous le caractère de Jésus. Par les dons, il nous équipe pour le service. Quatrième remarque sur le fruit de l'esprit. En opposant le fruit aux œuvres, Paul nous indique que l'esprit prend le mal à la racine. Il ne nous demande pas d'accomplir des œuvres bonnes, en tout cas ici, qui feraient pièce aux œuvres de la chair, car ces œuvres seraient encore des œuvres de notre nature pécheresse. Nous devons abandonner cette illusion funeste qui consiste à croire que l'observance de quelques règles pieuses ou de quelques conventions religieuses nous mènerait sur la voie de l'amélioration et nous permettrait de plaire à Dieu. Le problème avec les œuvres de la chair, ce ne sont pas seulement les œuvres, c'est surtout la chair. Ainsi, ce que fait l'esprit n'est pas d'édicter de nouvelles règles de bonne conduite, mais de transformer notre être au point qu'il soit rendu capable de produire un fruit d'amour, de joie, de paix, de patience, etc. Un fruit que la loi ne condamne pas. Qui dit fruit ici dit transformation profonde du caractère à la ressemblance du Christ. Non pas effacement de la personnalité. Nous ne sommes pas des clones, mais réorientation de l'être intérieur rendu capable d'amour vrai par le Christ. Le Saint-Esprit fait donc une œuvre qui nous bouscule profondément. Du fer qui reste, surtout chez nous les gars, qui reste notre seul moyen d'appréhender les choses, de les juger, jusqu'à un certain point de les modifier, il passe à l'être profond, intime. De l'extérieur, il va à l'intérieur. Des apparences que nous savons si bien soigner, il va au cœur que lui seul s'est transformé. Quand donc, mes amis, notre théologie du Saint-Esprit se limite aux dons spectaculaires, à la louange communautaire et même à la conversion, elle est beaucoup trop courte. Elle concerne, cette théologie, d'abord le plus intime de notre vie, la transformation de notre caractère, dont je crains que nous parlions trop peu dans nos églises. Deuxième réflexion, de l'indépendance illusoire à la vraie liberté quand l'esprit renverse nos fausses conceptions. Paul dit, au début du chapitre 5, ce que nous n'avons pas lu, « Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. » Et il s'empresse d'ajouter, « C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. » Sur cette base, j'affirme que tout l'enjeu du combat qu'est la sanctification, c'est de quitter les rivages de l'indépendance illusoire pour aborder ceux de la vraie liberté, la liberté chrétienne. Mais encore faut-il s'entendre sur ce que nous évoquons par liberté. Paul d'ailleurs a conscience qu'on peut en faire un mauvais usage, puisqu'il dit, nous l'avons lu, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui. Et je suis convaincu que sur cette question de la liberté, la question ne s'est pas arrangée. La liberté est un thème majeur dans nos sociétés occidentales. Elle est communément comprise comme l'absence de contraintes. Elle a pour synonyme l'autonomie, l'indépendance. Et si l'on se tourne du côté de la philosophie, elle est volontiers définie comme le caractère indéterminé de la volonté humaine, le libre arbitre. Ainsi, nous dit-on, l'homme est libre, et parfois nous utilisons ces notions, l'homme est libre parce qu'il peut choisir. Mes amis, il n'y a pas de vision plus étrangère à l'écriture que celle-là. L'homme y est décrit captif de ses passions, incapable de faire le bien, esclave du péché. C'est ce que dit Paul aux Romains quand il décrit notre incapacité à faire le bien. « Je suis, dit-il, comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et c'est ce que je déteste que je fais. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Malheureux que je suis, s'écrie l'apôtre Paul, qui me délivrera de ce corps voué à la mort. » L'actualité protestante nous livre le triste spectacle d'une liberté dévoyée, d'une indépendance illusoire et funeste, avec la décision prise par le synode de l'Église protestante unie d'ouvrir la possibilité d'une bénédiction des couples de même sexe. Au nom de la liberté humaine, qui met sur le même plan homosexualité et hétérosexualité, au nom de la bienveillance inconditionnelle de Dieu, je fais référence à des arguments avancés dans leur décision, qu'il faudrait manifester à tous, et sur la base d'une interprétation biblique qui se prétend fidèle, mais qui permet à peu près toutes les lectures, le mal est appelé bien au nom même de l'Évangile. Cette liberté-là, si proche de celle que réclament à corps et à cri nos contemporains, a pourtant si peu à voir avec celle que le Christ nous a acquise sur la croix et qui nous donne par l'Esprit. Si vous voulez avoir une idée de ce qu'est la liberté chrétienne, mes amis, pensez à Jésus qui en est le modèle le plus parfait. Jésus, parfaitement Dieu et parfaitement homme, totalement libre et complètement soumis à son Père. Avez-vous réfléchi à cela un instant ? Totalement libre et complètement soumis à son Père. Voyez-vous, la liberté selon l'Écriture n'est décidément pas ce que nous entendons habituellement par ce terme. La liberté n'est pas celle du choix, mais de l'obéissance dans l'Écriture. Réfléchissons un instant. Quand le Christ est venu par l'Esprit mettre en nos cœurs une conviction de péché, de justice et de jugement, nous n'étions pas libres, mais esclaves du péché et de la mort. Et l'accueil de la grâce de Dieu qui s'est traduit par notre régénération ne nous a pas fait passer de la liberté rêvée à la soumission subie, mais de l'asservissement dégradant à la corruption à la soumission libératrice au Seigneur. Que s'est-il donc passé ? Par la grâce de Dieu, en vertu des effets du sacrifice du Christ à la croix appliqué à nos vies par l'Esprit Saint, nous avons troqué le joug dur et écrasant de l'adversaire pour le joug doux et léger du Sauveur. Et la liberté, la glorieuse liberté des enfants de Dieu à laquelle nous avons part, c'est d'acquiescer à la volonté de Dieu parce que désormais la loi est inscrite au fond de nos cœurs. Ce qui est trompeur, mes amis, en la matière, c'est que le serpent ancien s'efforce toujours de faire croire aux hommes qu'ils peuvent choisir, qu'ils sont doués de libre arbitre, qu'ils n'ont d'autres contraintes que celles que les autres veulent leur imposer. Mais derrière ce discours de glorieuse autonomie, c'est le péché qui est à l'œuvre et sa morsure mortelle. Il n'y a pas de libre arbitre, dira Luther. Il n'y a qu'un serf arbitre, une volonté humaine captive, incapable de choisir et de faire le bien. J'aimerais attirer votre attention sur une ou deux idées reçues dans nos églises évangéliques qui ont la vie dure, et qui montre que nous n'avons pas forcément compris ce qu'était la liberté que nous procure l'Esprit. Il y a, depuis le XIXe siècle, sous l'effet du romantisme, pas de l'Écriture, l'exaltation de la spontanéité comme canal de l'inspiration de nos prières et parfois même de nos prédications. Comme si la spontanéité garantissait la spiritualité de nos interventions. Vous savez, j'ai entendu bien des choses dites spontanément et c'était des grosses bêtises. L'autre chose qui montre que nous ne sommes pas forcément libres au sens que je viens de décrire, c'est l'attachement excessif que nous pouvons avoir à la forme de notre piété, au risque de juger sévèrement et injustement ceux qui ne font pas comme nous. Le Seigneur, dans sa grâce, permet que l'Évangile s'incarne de façon si diverse. Je me souviens avoir assisté avec ma femme à un culte au cœur de l'Afrique noire, à côté de Mokolo, pour une séance de baptême. Vous savez, ça avait assez peu à voir au culte auquel je suis habitué. Et puis je suis aussi allé dans une méga église au Brésil. Ça n'avait rien à voir ni avec l'un ni avec l'autre. Mais c'est le même Seigneur qui était célébré. Troisième et dernière partie, des efforts vains au changement véritable quand l'Esprit bouleverse notre vie et nos églises. C'est peut-être là qu'on sera plus amis après, mais on va voir. Reste à aborder ce qu'implique la marche par l'esprit de façon concrète. Trois choses complémentaires. Un diagnostic juste d'abord. Marcher par l'esprit consiste d'abord à accueillir sans réserve le diagnostic que fait le Seigneur. Notre chair est incapable d'aucun bien véritable et ne peut être ni réformée par la régénération ni améliorée par la sanctification. La seule destination qui est réservée à notre chair dans notre vie de disciple, c'est la crucifixion dans l'union avec Christ. Très concrètement, mes amis, cela veut dire que nous devons abandonner ce réflexe pécheur qui cherche toujours en soi-même les moyens de progresser spirituellement, qui voudrait s'appuyer sur ses seules capacités pour servir le Seigneur. Les yaka et ifokon que nous nous adressons et que nous lançons aux autres sont des pistes humainement stériles et spirituellement nuisibles. Notre moi et celui de notre frère ou de notre sœur sont par nature incapables d'accomplir la volonté du Seigneur. La marche par l'esprit consiste à abandonner nos illusions sur nous-mêmes pour mieux nous confier en Dieu. Un diagnostic juste, une confiance ferme ensuite. Marcher par l'esprit consiste ensuite, sur la base de la crucifixion de notre chair avec Christ, à refuser le chant des sirènes de notre vieille nature, comme si l'appel de ses pulsions et de ses passions était irrésistible. Nous sommes parfois tentés de le croire et de céder à nos mauvais penchants, même de les excuser. Mais nous avons un recours pour résister à cette tentation. Croire fermement ce que Dieu dit par l'apôtre Paul, ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ, alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit et nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous devons nous en souvenir, nous pouvons le rappeler à l'adversaire qui cherche à nous dévorer et nous sommes invités à l'invoquer dans notre prière lorsque l'assaut du péché se fait pressant. Et enfin, une soumission volontaire. Marcher par l'esprit consiste enfin à nous placer volontairement et de manière toujours renouvelée sous son contrôle. Lui et lui seul peut nous conduire et produire en nous les changements intérieurs que réclame la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Jules Marcel Nicole utilise une image intéressante à propos de la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Il la compare à la visite d'un ami dans son foyer. Selon le degré d'intimité et la disponibilité, cet ami restera dans le vestibule, ou bien il entrera dans le salon, où aura les honneurs d'une visite de toute la maison. Et Jules Marcel Nicole de dire que trop souvent nous laissons le Saint-Esprit dans le vestibule de notre vie. Bien des portes de nos cœurs lui sont fermées, derrière lesquelles se cachent les péchés auxquels nous ne voulons pas renoncer, les craintes qui nous paralysent, ou les blessures qui nous font souffrir. À ceux qui craindraient d'ouvrir leurs pièces secrètes à l'Esprit Saint, puis-je rappeler qu'il s'agit de l'Esprit du Seigneur, dont l'amour est immense et le joug doux. Et à ceux qui redouteraient le subjectivisme ou les dérives mystiques dans la soumission à l'Esprit Saint, dois-je rappeler que l'Esprit agit en nous avec et conformément à la parole de Dieu. mais je voudrais pointer une difficulté particulière, rarement abordée dans nos églises, celle des apparences que nous soignons et que nous sauvons même. J'y ai été rendu sensible par mes propres difficultés. J'ai fait plus d'épisodes de dépression que je n'ai de doigts. Et j'ai découvert ça en devenant pasteur. J'y ai été rendu sensible aussi par la lecture d'un livre que je vous recommande, intitulé « Bouleversement intérieur » de Larry Crabb, dont le sous-titre est celui-ci. « Le changement véritable est possible si nous sommes prêts à passer par un bouleversement intérieur. » Que dit-il ? Larry Crabb dit avec raison que les églises ont tendance à honorer les membres qui se montrent les plus persuasifs pour créer l'illusion de chrétiens non déchirés intérieurement et les présentent souvent comme modèle de ce que tout enfant devrait être. Pour moi, le modèle de ce genre, c'est cette brave sœur, quand je lui demande comment elle va, me répond en se tordant de douleur, ça va toujours avec le Seigneur. Larry Crabb considère qu'à force de prêcher un évangile de la facilité, de la bénédiction immédiate, de la joie sans réserve et de l'absence de souffrance des ici-bas, les églises ont fermé la voie à la transformation profonde du caractère dès maintenant. Comme à cause du péché en nous et autour de nous, la déception marque tôt ou tard notre vie de foi, avec les épreuves qui ne manquent pas, les frères ou les sœurs d'ailleurs qui nous blessent ou nous délaissent, et l'Église qui n'est pas toujours à la hauteur de sa vocation, nous mettons en place, dit Larry Crabb, des mécanismes de protection très compréhensibles qui visent à nous éviter la souffrance plutôt qu'à l'affronter. Ainsi, dans l'Église, j'aurais tendance à fuir les conflits, à sauver les apparences pour éviter de faire face aux questions difficiles de la colère, du doute ou de l'échec, ou encore à me désinvestir des relations pour ne plus être blessé. Cette attitude courante est doublement dramatique. Elle m'empêche de faire face à la vérité qui est au fond de mon cœur, et tient donc le Saint-Esprit sur le seuil de mon existence. Et elle fait croire aux frères et aux sœurs de la communauté que rien ne m'atteint. Et pendant qu'ils culpabilisent de ne pas être aussi spirituels que moi, je souffre de ne pas être à la hauteur de l'image que je prétends donner. Pour Larry Crabb, la seule solution pour sortir de cette impasse et connaître une transformation profonde, c'est de faire face honnêtement à notre manière de vivre, et donc accepter un bouleversement intérieur. Voici comment il résume son propos à la fin de son ouvrage. Pour le chrétien, dit-il, rien n'est plus important que de suivre le chemin qui conduit à la connaissance de Dieu. Pourtant, des années de vie au milieu des chrétiens m'amènent à me demander si un tel chemin existe vraiment. Le témoignage des Écritures, de l'Esprit et de quelques amis me convainc pourtant qu'il existe réellement un chemin qui conduit à la connaissance de Dieu dans n'importe quelle circonstance. Si vous êtes un chrétien désireux d'emprunter cette voie, vous devez d'abord vous décider à vivre votre vie honnêtement. Rien ne sera aussi douloureux pour vous que le fait de prendre cet engagement. Parce que nous sentons intuitivement que la vie dans ce monde déchu n'est pas ce que nous souhaiterions. La décision de la vivre autant que possible, telle qu'elle est réellement, peut paraître comme complètement insensée. Ne vaut-il pas mieux se tenir à distance de tout ce qui trouble la vie ? Mais Dieu, ajoute Larry Crabb, n'a pas gardé ses distances. Il voit la vie telle qu'elle est, et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Si nous voulons le rencontrer et goûter à son amour fort, nous devons ouvrir nos yeux à tout ce qui est vrai, même si cela nous dérange. Et cela nous dérangera. Et alors c'est là que vous allez voir, ce n'est pas forcément très réjouissant, mais à mon avis c'est très vrai. Un regard honnête sur la vie entraînera un désarroi à cause de ce que nous découvrirons sur nous-mêmes et sur notre monde environnant. Il suscitera ensuite du dépit à cause des autres, en particulier à des moments où une présence pleine de tact et d'affection aurait été tellement souhaitable. Enfin, il engendre un sentiment de condamnation à cause de nos innombrables transgressions du commandement de l'amour. Désarroi, dépit, condamnation, est-ce cela le chemin du bonheur? Et Larry Crabb répond oui. Oui, car le sentier de la maturité exige un engagement à remplacer les pseudo-certitudes. La satisfaction feinte et la spiritualité contente d'elle-même par le désarroi, le dépit et la condamnation de soi, qui peuvent atteindre des niveaux angoissants. Mais à leur tour, ces prises de conscience créent les conditions favorables au développement de la foi, de l'amour et de l'espérance. Oui, il existe bien un chemin qui mène au changement de fond en comble. N'abandonnez pas. Amen.